Merci Antoine Denecher et bonsoir à tous. Alors ce soir pour le dernier épisode de l'année, eh bien on est dans l'ex-studio aujourd'hui désaffecté et démonté de France Bleu Provence à Toulon, Yvon à la perche, bref tout un poème. C'est vrai qu'on sent un peu tout nu. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Et ben voilà Bertie, on joue carte sur table. Avec Yvon, on a fait tomber le short, la chemise, le maillot. Et nous voilà dans le même costume, dans la même tenue que vous, dans notre plus simple appareil. Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Absolument rien. Mais rien. C'est comme si vous aviez une robe verte ou une robe bleue ou un pantalon. L'habillement, c'est pas ce que je regarde chez les gens, c'est plus le regard que le reste. Et puis après, on a envie de regarder le reste si le regard accroche. C'est tout, c'est simple. Pourquoi toujours compliquer les choses ?
Est-ce que ça rend les rapports plus francs ?
En tout cas, ça les rend sans doute, si c'est pas plus franc, moins hypocrites. Parce qu'on peut pas, c'est pas parce qu'on est nu qu'on a que des qualités. Mais en tout cas, ça les rend pas pires.
Bon ben tu vois Yvon, ça fait quoi ? Ça fait 3 ans qu'on fait sur la route. Et puis on continue l'année prochaine. Ben on se connaît un peu mieux maintenant. Nous sommes arrivés au levant quand le soleil se couchait, débarqué sur le port après avoir raté la navette par des inconnus qui partaient faire la fête. La voix de Joe Cocker qui résonnait sur le bateau a fait se retourner ceux qui dînaient dos à la mer. A commencé la lente ascension du chemin de l'Aiguade avec nos valises lourdes et nos chaussures pas du tout adaptées. 10 minutes de marche, avait dit notre hôtelier. Il nous en a fallu près du triple jusqu'à ce qu'un homme à la stature imposante jaillisse devant nous pour nous souhaiter la bienvenue, nu comme un verre et souriant en coin de nous voir avec Yvon, un peu, il faut bien le dire, interdit. Mais interdit n'est pas levantin, n'est-ce pas Jean-Pierre Blanc ? Bonsoir.
Bonsoir. Non, je crois que le levant, c'est tout le contraire d'interdit. Le levant, c'est... La liberté, la générosité, la beauté, j'espère en tout cas. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que j'ai eu envie d'y vivre. Mais je crois qu'en général, j'aime pas beaucoup les interdits. Donc, c'est peut-être pour ça que je me sens particulièrement bien dans cet Héliopolis magique que les frères Durville ont inventé. Je crois que de toute façon, Héliopolis et l'île du Levant, soit ça marche, soit on part en courant. Moi, j'ai plutôt eu tendance à croire que je m'étais réveillé dans une île grecque, la Grèce où j'ai eu mes premières émotions esthétiques très jeunes. Et c'est à l'issue d'un festival des îles d'or que j'ai dormi pour la première fois sur l'île du Levant. Donc pour moi, c'est absolument le contraire de l'interdit.
Alors comment vous présentez Jean-Pierre Blanc, peut-être comme ça, amoureux du Levant ? Vous êtes par ailleurs directeur de la Villa de Noailles, centre d'art et d'architecture de hier. Vous nous faites la gentillesse de venir en plein jury de Design Parade ici à Toulon, que vous devrez rejoindre en cours de route. Et nous recevrons à ce micro en fin d'émission l'écrivain Frédéric Sirier, auteur de « Je suis capable de tout » aux éditions Verticales, dont l'intrigue se déroule sur le Levant. Alors vous avez un point commun, Jean-Pierre Blanc, avec Frédéric Sirier, c'est que vous avez grandi dit en face du Levant, mais que vous n'y avez jamais mis les pieds avant d'avoir atteint l'âge adulte.
Oui, tout à fait. Mes parents m'ont amené très souvent sur l'île de Porquerolles, qui est celle qui est la plus proche du continent. Un peu plus rarement, mais quand même quelquefois à Porquerolles. Et jamais au Levant. Et je ne savais pas évidemment pourquoi. Enfin, je n'avais pas mémorisé la raison de cette absence de visite sur cette troisième... Île d'Or, alors bon, il y a une raison pratique, elle est plus éloignée que les autres. Les navettes y sont moins fréquentes, malheureusement, toute l'année. Et puis, je pense que mes parents, qui étaient plutôt des gens pour lesquels la nudité n'était pas forcément quelque chose de facile ou de simple, nous ont simplement évité de devoir vivre cette situation. Et c'est pour cette raison-là que nous n'y sommes jamais allés. Et c'est donc après un festival des Îles d'Or que j'ai dormi pour la première fois à l'âge de 40 ans sur l'île du Levant. Voilà.
Il faut dire que cette île du Levant est composée, alors elle fait 8 km de long, mais 90% de cette île, c'est la partie militaire, le camp militaire. Les 10% restants qui nous intéressent ce soir sont privés. 65 hectares achetés dans les années 30 par les frères Durville, deux médecins hygiénistes et avant-gardistes. Et hygiéniste, ça vous parle en tant que directeur de la Villa Noailles?
Oui, alors moi, je sais pas si je vais utiliser le mot que vous venez d'utiliser, hygiéniste. Je trouve que ça fait un peu peur. Moi, je dirais deux médecins géniaux, généreux, fins, intelligents, visionnaires. Dans les années 30, on est en pleine période que l'on appelle aujourd'hui moderne. Donc, on est en pleine modernité. Le Bauhaus, cette organisation en Allemagne... a développé des formes modernes pour les constructions. Charles et Marie-Laure de Noailles commandent à Robert Malestévens une maison intéressante à habiter sur les collines de Hyères. Et au même moment, en face, sur l'île du Levant, deux médecins imaginent un centre tourné vers le soleil, la nature, la beauté, pour remettre les gens en forme ou les maintenir en forme. Et cette expérience est double, puisqu'il y a Héliopolis à Hyères et Physiopolis à Paris, une île sur la Seine, qu'une exposition présente au pavillon de l'Arsenal à Paris en ce moment. Et du coup, c'est extrêmement novateur. Imaginez que les gens se dénuderaient en 1930, alors qu'on vient à peine de se libérer du corset, et vivraient leur vie nue sur une île sauvage, très très sauvage, en Méditerranée. C'est toujours formidable aujourd'hui. Quand je remonte de la galère l'été à 18h, nu à travers le domaine des arbousiers, que je ne croise personne pendant une heure en remontant chez moi, c'est le bonheur à l'état pur, Héliopolis.
Alors il faut dire deux mots du statut de cette île, qui est donc une île privée, mais qui dépend de la ville d'Hyères par un petit lotissement. Et c'est la mairie d'Hyères qui a défini par arrêté municipal les zones naturistes.
Oui, on arrive au Levant, l'île est une île naturiste, donc il y a un arrêté municipal qui organise administrativement les choses, si je peux dire cela ainsi. Mais oui, on vit nu partout au Levant, enfin quasiment partout. Ce qui est intéressant, c'est que ça rend la vie belle au-delà de la nudité. Il y a la nature, il y a l'environnement protégé, les eaux exceptionnelles, l'absence de bruit. Il n'y a pas de voiture, quasiment pas de scooter, pas d'éclairage public. Les nuits étoilées du Levant sont d'une exceptionnelle beauté. Donc on est au paradis quand on est à Héliopolis, au paradis naturiste.
Alors, trois zones sur l'île du Levant, l'une où la nudité est libre, l'autre où elle est interdite, et la troisième où elle est obligatoire. Frédéric Capoulade, c'est le propre de l'île du Levant que de cacher certains de ses trésors, et notamment votre maison et sa vue magnifique.
Oui, parce que l'île est quand même très accidentée, donc chaque maison a sa vue et chaque maison a son balcon. Donc quelquefois on appelle cette île une île jardin, avec ses balcons différents.
Ces balcons plus ou moins cachés,
des
yeux des autres.
Tout à fait, avec la végétation donc indigène, hein, les arbousiers, les bruyères, plus toute la végétation qui a été importée.
On a, depuis votre balcon, on a vu sur l'horizon, quand on regarde par là sur la gauche, mais on a surtout vu sur les autres îles d'Or.
En fait, de mon balcon, on voit toute la rade d'Hyères, l'île de Porquerolles, le parc national, l'île de Bagot, réserve intégrale, l'île de Porquerolles, la presqu'île de Gien, Toulon, au fond, qu'on ne voit pas dans la brume, il y a le port d'Hyères, la Londe, le fort de Brégançon, le cap Bénat, le Bormes-Limousin, le Lavandouve, et en continuant un peu, en regardant à droite, on verra le cap Camara, qui en fait signifie l'entrée de Saint-Tropez. Et en fait, la maison, c'est une maison familiale, Et on est venu tous les ans sur l'île pour les vacances scolaires, puisqu'on habitait au Maroc. Donc c'était un mois au mois de juillet et 15 jours en septembre. Donc j'ai une histoire d'adolescent en vacances sur l'île du Levant. Donc ça, depuis 8 ans, je retrouve un peu des souvenirs d'adolescence.
Vous, vous avez connu, adolescent, l'île avant 68 en fait. Vous l'avez connu à la fin des années 50 et dans les années 60.
Tout à fait. Alors les vacances, il y avait beaucoup de jeunes adolescents. Donc en fait, on se retrouvait là, on allait nager, on pêchait, on jouait ensemble. Sachant que à l'époque, on était au bord de l'eau, nu. Mais en dehors, dès qu'on quittait l'eau, il fallait avoir au moins un minimum.
Qu'est-ce que c'était un minimum? C'était vraiment le nom d'une mini-tenue, en fait.
Mini-tenue, c'était un cache-sexe. Un cache-sexe, alors, soit avec une petite corde entre les fesses, soit, pour les hommes, une petite élastique. Mon père était un adepte formidable du minimum. Il avait toutes sortes de minimums.
Et on pouvait collectionner le minimum,
tout
alors?
Tout à fait, tout à fait. Là, d'ailleurs, on fait cet été, je crois. Il y a une présentation de minimum, d'ailleurs, amusante, je crois, qui est prévue courant juillet. Tous les tissus qu'on peut imaginer, en cuir, avec des poches pour mettre un porte-monnaie, enfin, ce qu'on voulait.
Vous en portez encore?
Non, je ne porte plus. Je n'en porte plus, et puis il a complètement disparu, parce que c'était quand même pas très confortable.
Voilà. Aujourd'hui, c'est le paréo qui a supplanté le minimum.
Le petit paréo, plus ou moins grand, ou rien du tout, sauf dans les lieux publics et sur le port. Une petite histoire, quand même, sur le minimum, qui est raconté par un ancien de l'île, c'est qu'il a été créé parce que les d'Urville au Levant ne désiraient pas voir les gens nus.
Les frères d'Urville,
parce qu'ils craignaient l'autorité, parce que l'autorité interdisait la nudité. Moralement, éthiquement, ils étaient pour, mais ils ne voulaient surtout pas avoir de problème avec l'administration.
Ici, on peut avoir des problèmes avec l'administration si on se promène nu dans certains lieux. Les zones sont très définies, très délimitées.
Les zones ont été très définies en 78. Depuis, ça a largement évolué, la tolérance est allée beaucoup plus loin. Globalement, à part le port et que certains lieux comme la poste, c'est un lieu public, tout le monde peut se balader nu sans souci. Et inversement, tout le monde peut se balader habillé aussi, sauf à la plage des grottes et sur les corniches du bord de mer.
Oui, il y a des endroits voilà, où le textile est interdit.
Le textile, non, c'est l'inverse. La nudité est de rigueur. Je pense, je ne suis pas sûr de moi, que dans un lieu comme ça, qui est ouvert au public, on ne peut pas légalement obliger les gens à se dévêtir. Mais il n'y a jamais eu de procès verbal là-dessus. Non. C'était plutôt, d'ailleurs, moi j'ai des souvenirs de gamin, au Prout, c'était plutôt l'attraction. Quand on voyait des gens habillés, qui restaient habillés sur la plage, c'était les glaces, les rayons de soleil, les applaudissements, jusqu'à ce que les gens se déshabillent ou s'en aillent.
Jean-Albert Vaillant, dit Bertie. Vous nous recevez dans ce studio que vous avez aménagé dans le centre-ville, centre-village, centre-île du Levant. Votre commerce principal, à vous, c'est le bazar. Vous y recevez les clients en plus simple appareil. Votre seule tenue aujourd'hui, c'est donc cette paire de lunettes de vue que vous accrochez avec un petit cordon, et le cordon vous sert à retenir votre stylo bic. C'est pratique.
Très pratique. Ça permet de noter une commande éventuelle. Autrefois, je notais sur un paquet de cigarettes, mais je ne l'ai même pas en poche. Et puis, les nouveaux paquets ne permettent plus d'écrire dessus.
Surtout, on n'a pas vraiment le droit de fumer sur l'île du Levant.
Ça, on n'a pas le droit de fumer. C'est un peu de bon sens. Il y a des gens qui fument, y compris sur les corniches. S'ils le font proprement, correctement, qui font attention, qui ne jettent pas leur mégot, et a fortiori allumé, à mes yeux, c'est pas dramatique. Parce que à force d'interdire tout, on voit ce qui se passe, les gens s'autorisent tout.
Ils s'autorisent tout, même à circuler en textile, habillé.
Oh bah ça, s'ils ont envie de circuler en textile, ça me dérange pas. Mais ce qui me dérange beaucoup, c'est que les mêmes veulent que les autres soient en textile. Moi, je n'ai jamais déshabillé qui que ce soit. Mais je supporte pas que certains essayent de rhabiller ceux qui ont envie d'être déshabillés. C'est clair.
Alors, votre bazar a un peu contribué à rhabiller les gens. En 1934, c'est ici, je crois, qu'est commercialisé le premier cache-sexe.
Oh oui, mais j'étais pas né. La nudité en France était interdite. Bon, alors, il y avait une tolérance sur pour Héliopolis, qui est une île. Je vous rappelle, c'est une île. Donc, il faut prendre un bateau pour y arriver. Il y a une démarche particulière. Moi, je suis venu en 71. Je me souviens, il y avait des panneaux avec des appareils Kodak barrés de rouge pour dire photo interdite. Parce que la photo aurait été la preuve qu'il y avait des gens nus, alors que c'était toléré par l'arrêté municipal, mais interdit sur le plan national. On n'avait pas le droit d'être nus.
Bertie, racontez-nous pourquoi vous, dès 1971, commencez à venir à fréquenter cette île du Levant, comme vous le dites vous-même, c'est une démarche.
Oui, mais pas, c'est par hasard. J'étais en vacances avec un copain, et puis on avait loué dans une petite pension de famille, comme il y en avait à l'époque. Et puis en se promenant, on voit Vedette, Île d'Or, les îles. Bon, on se dit, on va visiter, comme si on passe rue de Rivoli, on va au Louvre. Enfin, c'est tout naturel. Et moi, cette ambiance m'a très, très vite plu. Conviviale, décontractée, je n'étais pas du tout naturiste. Mais ça ne m'a... Le fait d'être nu, il n'y a pas de déboueur et de PDG. Et ça, c'est un aspect extrêmement, à mes yeux, positif. On donne ce que l'on est. On ne vend pas ses diplômes, son argent. On est beaucoup plus authentique nu qu'habillé, je pense.
Vous venez de quel milieu social ?
Hyper bourgeois. Je suis né dans le 16e arrondissement. Mon père était PDG d'un laboratoire pharmaceutique. On était 7 enfants. Gâté, dorloté, chouchouté, coucouné.
Qu'est-ce qu'ils ont dit au départ, vos parents, quand ils ont appris que vous passiez vos vacances sur une île avec des gens nus ?
Ben, pendant longtemps, je ne leur ai pas dit. Et quand j'ai acheté le bazar, j'ai dit à maman, j'ai acheté un bazar. Et maman m'a répondu, je dirais à mes amis que tu as acheté un drugstore.
L'île du Levant, dans ses années 70, était une île très festive. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine, oui. Après 68, la fête partout.
C'était effectivement très, très festif. Il y avait une petite boîte de nuit qui s'appelait la Caravelle, que tous les anciens Levantins ont connue, et c'était un endroit formidable où tout le monde venait, tous pour rigoler. Donc je reste naturiste, je suis pour la convivialité et le sourire, mais j'en fais pas une philosophie du tout, et je suis pas philosophe, je suis pas un penseur. Moi, ce qui me plaît, c'est de vivre en paix. C'est pour ça que toutes ces histoires d'adversité, bon, ça ne me démonte pas, mais je trouve que c'est un gâchis, que c'est dérisoire, que c'est nul, que c'est petit, et qu'on faudrait mettre son énergie dans autre chose que d'essayer de rhabiller des gens qui n'ont pas envie de l'être.
Jean-Albert Vaillant, Bertie, quand vous parlez d'adversité, vous faites allusion à cette bataille, entre guillemets, entre libertaire et réglementaire, dont vous êtes un peu un personnage central, puisque en 2010, au plus fort sans doute de l'été, vous êtes verbalisé dans votre commerce, au motif que vous êtes nu dans un lieu qui accueille du public.
D'abord, ce n'était pas à l'intérieur de la boutique, mais sur la terrasse. Je n'ai pas été le seul à être verbalisé. Il y a deux dames qui ont été verbalisées également. Le résultat des courses, c'est que j'étais 3 fois au tribunal. On a eu une amende de 60 euros, donc ça ne m'a pas coûté très cher. Ça m'a empêché de faire la grasse matinée 3 fois, c'est tout. Bon, et on a encombré le travail des justes qui sont débordés pour une histoire stupide. Et pourquoi il y a eu cette histoire ? Parce que c'est un règlement de compte de certains Levantins antinaturistes, parce qu'eux ne le sont pas. Et puis, racontent des histoires, font de la désinformation, sont des véritables révisionnistes pour les Durville. Ils racontent que les Durville étaient contre la nudité.
C'est presque drôle d'imaginer l'unique policier municipal en train, selon les zones où se trouvent les personnes qui l'interpellent, en train de demander aux gens qui de se rhabiller, qui de se déshabiller, puisque dans certaines zones, le naturisme est obligatoire. Vous, quand vous avez été interpellé par un policier municipal que vous connaissiez.
Bien sûr, je le connaissais, on a même pris des repas ensemble. Mais ce pauvre garçon, c'est parce qu'il a été poussé par un petit nombre de personnes Moi, je l'ai vu à poil pendant des années. Il était naturiste et ça le dérangeait pas, parce qu'il a été poussé par les gens qui ont acheté au Levant parce que c'était pas cher.
Parce que les prix de l'immobilier n'étaient pas chers.
Voilà. Mais en oubliant que c'était un domaine naturiste et qu'à ces conditions, il fallait qu'il se soumette à la règle commune ou bien qu'il n'achète pas, mais qu'il n'essaye pas de transformer un endroit naturiste en endroit non naturiste sous prétexte que eux ne supportent pas de voir des gens à poil.
Sur la route de l'île du Minimum, nous sommes dans ce studio du Minimum à Toulon avec Jean-Pierre Blanc, amateur de mode et de haute couture, mais qui aime aussi se séparer de l'accessoire. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous nous racontiez votre plaisir à remonter nu après une baignade sur les sentiers du littoral. Est-ce qu'on a suffisamment défini le naturisme, en tout cas, est-ce qu'on l'a suffisamment différencié du nudisme ?
Bon, moi je crois qu'on en a beaucoup parlé, que Bertie a très bien évoqué le sujet. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je me fous complètement qu'on nous appelle des nudistes ou des naturistes. Moi, j'ai envie de vivre nu comme je l'entends. Je pense qu'il faudra un peu de finesse dans cette approche des choses. Un peu de finesse et un peu d'intelligence, de tolérance. Bon, c'est pas ce qui nous rassemble dans ce pays en ce moment, mais voilà, c'est un choix. Il y a une belle aventure, il y a une histoire. Cette histoire, elle doit être protégée au patrimoine immatériel comme des monuments historiques. Parce qu'elle est en danger à certains moments, par la bêtise humaine, par la méchanceté. Donc quand les choses sont en danger, il faut les protéger. Les frères d'Urville sont des monuments historiques. Et moi je souhaite, je militerai auprès de la ministre de la Culture pour que l'île du Levant et son histoire, en général, son histoire naturiste, nudiste, festive, soit inscrite au patrimoine immatériel de notre pays. Et pourquoi pas au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parce qu'on est attaqué tout le temps. J'ai pas envie du tout de revenir là-dessus, c'est pas intéressant. De toute façon, la majorité des gens qui vivent sur cette île, il ne faut pas se faire d'illusions, sont nudistes. Donc pour moi, le sujet n'existe pas. Et je pense que quand Annie Girardot, Serge de Sazo, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Christian Dior, Pierre Balmain sont venus sur l'île du Levant, ou bien d'autres, Georges Moustaki, Michel Simon, je pense qu'ils avaient cette finesse, cette intelligence et cette élégance de ne jamais évoquer ce type de bassesse, de savoir qui est comment et qui fait quoi.
Donc je suppose que vous n'aimerez pas parler de ceux qui voudraient réglementer, parce que ça peut dire quelque chose peut-être de la sociologie du Levant qui aurait éventuellement changé. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus qui viennent là parce que c'est moins cher, mais qui finalement n'ont rien à voir avec le naturisme ? Est-ce qu'il y a peut-être des héritiers de naturistes décédés, mais qui, voilà, on suppose que le naturisme ne se transmet pas génétiquement ?
Oui, alors en même temps, sûrement, pas moins cher qu'ailleurs, héritiers, tout ça est vrai. Mais historiquement, cette querelle idiote a toujours existé. Vous pouvez prendre les livres des années 40, des années 50. Ils se battaient, ils se disputaient pour des futilités. Il y avait des démissions de l'un, de l'autre. C'est écrit partout. Donc ce n'est pas nouveau. Mais je pense qu'il faut être capable de dépasser cette chose-là. Aujourd'hui, avoir une île de Méditerranée sur laquelle on peut vivre nu, c'est extraordinaire. C'est une chance qu'il faut partager avec un maximum de gens. On n'a pas envie d'être comme sur le port du Lavandou, même si le port du Lavandou est extraordinaire l'été. C'est bien parce que c'est différent qu'on vient là. On n'a pas envie d'être comme à Porquerolles, parce que sinon on irait à Porquerolles. Pourquoi vouloir perpétuer la même chose qu'ailleurs ? On a une particularité belle, choisie. Il faut la conserver telle qu'elle. Voilà. De toute façon, cette idée du naturisme a été inscrite par le Conseil d'État et validée par le Conseil d'État dans la charte du parc national de Porquerolles. Ça n'existe nulle part ailleurs ou quasiment dans le monde. Ouvrons les yeux, c'est ça la réalité.
Alors, je crois qu'on n'a pas dit que l'île du Levant compte 240 propriétaires à Héliopolis, seulement une centaine ou 80 à l'année. Évidemment, ça se multiplie l'été. Alors, vous parliez aussi de toutes ces stars qui sont venues chanter sur l'île du Levant. Vous parliez de Michel Simon, vous parliez de Georges Moustaki. Et peut-être bien que Kurt Weill serait venu aussi.
C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, mais conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui habite gentiment nous invite à en faire le tour. Les soucis, c'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit, c'est Yucali.
Gilles Goiset, des cigales, des bougainvilliers, une grande terrasse de béton qui récupère l'eau de pluie, des chaises longues, des parasols. On est sur la terrasse du Yucali.
Bienvenue.
Qu'est-ce que c'est le Yucali ?
Le Yucali, c'est une chanson de Kurt Weill qui a été écrite dans les années 30 et qui parle d'une île de tous les bonheurs, de tous les plaisirs. Bah, ça nous correspondait bien et on suppose que ça parle de l'île du Levant.
C'est votre interprétation.
Voilà.
Et donc c'est le nom que vous avez donné à cette... Alors c'est pas un hôtel, comment on appelle ça, location de meublé ?
Voilà, c'est ça, location de meublé. On a 6 meublés avec un coin cuisine pour chaque studio. Et puis chacun se fait sa petite cuisine à son rythme. Voilà.
Forcément nu ou pas ? Obligatoire ici ou pas ?
Bah, c'est dommage de venir ici et d'être habillé. On incite voilà, à mettre le pareo si les gens ont un peu de mal. Mais on se sent plus libre déjà. Vous avez déjà fait l'expérience.
On n'était pas censé dire aux auditeurs. Gilles Goiset, quand est-ce que vous avez franchi ce pas-là avec Thierry ?
On est venu en vacances la première fois ici en 2007. La première fois que Thierry m'a dit on va sur une île naturiste, je lui ai dit oh là là, au secours. Me baigner nu, oui, mais après vivre nu toute la journée. Donc il y avait une petite appréhension et puis... On est arrivé sur l'île, c'était juste paradisiaque, et voilà, on a été piqué au virus, et puis la nudité s'est faite très facilement, parce qu'il n'y a pas de regard de jugement au Levant. Donc on regarde l'être humain qui est en face de nous, mais on n'a pas de jugement, savoir s'il est trop gros, trop maigre, trop mince, trop aussi. Et puis, la mer, le soleil, la nature, tout ça, ça s'est vite fait, quoi.
Donc vous, Gilles, ça fait 5 ans que vous vivez ici sur l'île du Levant. Comment s'est passé l'accueil des Levantins ? Parce que on sait en général que sur une île, c'est particulier de s'intégrer, mais sur une île comme celle du Levant ?
Sur l'île, c'est pas une île d'autochtones. Il n'y a pas de vieilles familles. Nous sommes là, nous sommes... les rois de l'île et les autres ne sont pas les bienvenus. Quoi. Donc ça s'est fait très facilement.
Est-ce qu'il y a néanmoins, entre les nouveaux venus et les plus anciens, ou des visions différentes de ce que doit être le naturisme sur l'île ?
Ici, je pense que c'est une question de respect de chacun. Voilà, si quelqu'un veut être nu, c'est son choix. Si quelqu'un veut être habillé, c'est son choix. Tout est une question de respect, en fait. C'est le mot principal sur l'île, c'est le respect.
Vous, Gilles, avec Thierry, vous vivez du commerce sur l'île du Levant. Depuis quoi, 2-3 ans, le tourisme serait en chute ?
Alors, pas du tout, en fait. Parce que le naturisme est en progression, déjà. Et puis, depuis 2-3 ans, comme je suis président de l'ONU des commerçants, on a fait pas mal de publicité pour faire parler de l'île aussi un petit peu. Parce que l'île du Levant a été très connue dans les années 70. Et puis après, il y a eu une espèce de déclin qui s'est fait. Les gens connaissent pas l'île et ça fait un peu peur. L'île du Levant fait peur. C'est une île mystérieuse. On parle de Porquerolles, de Porquerolles. Et puis, le levant, voilà, alors que c'est juste l'île du bien-être. Le souci, c'est que l'école a fermé il y a 7 ou 8 ans, je crois. Donc ça empêche des familles de s'installer. Donc du coup, on se retrouve avec des couples sans enfants, plus ou moins âgés.
Des couples homo aussi. Vous avez affiché un autocollant gay-friendly, je crois, sur votre établissement.
Non, c'est Gay Provence, c'est un des sites qui référence, voilà. C'est pas pour faire du prosélytisme gay spécialement, mais c'était pour dire aux gens qu'ils étaient les bienvenus ici aussi, quoi. On accueille tout le monde, hein. C'est aussi hétéro-friendly aussi.
Est-ce que vous pensez que le débat qu'il y a eu sur l'île il y a quelques mois déjà, sur cet arrêté municipal qui date de 1978 et qui réglemente vraiment le zonage de l'île, est-ce que vous pensez que derrière tout ça, il y a un enjeu économique, le tourisme sur l'île ?
Oui, nous on a défendu la place, enfin le passage nu sur la place, parce que justement les touristes ne comprenaient pas et c'était complètement absurde. Enfin, c'était du pur Kafka, quoi. Il fallait s'habiller ici, se déshabiller là. Enfin, tous les 10 mètres, il fallait changer de tenue, si je puis dire. Donc voilà, on voulait juste que nos touristes ne soient pas embêtés. On les fait venir du monde entier pour vivre autrement ici. Et là, pour le coup, il n'y avait pas le respect pour attendre d'un lieu comme ça, qui est aussi un lieu où la liberté, tout en respectant les règles, mais voilà, il y a une certaine liberté de vivre. On a pacifié les choses.
Mais c'est un rêve, une folie, il n'y a pas de Youkali, chante Ute Lemper. Ah bon, Jean-Pierre Blanc ? Il n'existe pas ?
En tous les cas, pour savoir si Kurt Weill serait peut-être venu au Levant, quelque chose qui pourrait le laisser penser, c'est qu'il est protégé, aidé par Charles et Marie-Laure de Noailles, qui habitent leur château de Saint-Bernard ailleurs, dans les années 30. Et du coup, bah, pourquoi pas Kurt Weill au Levant, c'est une jolie légende. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont fait la beauté et l'intelligence de cette île. Et puis, il y a cette douceur de vivre que l'on sentait très bien dans le reportage que vous avez fait au Youkali. Il y a la douceur de Gilles aussi, et des gens qui ont décidé de changer leur vie pour s'installer dans ce paradis. C'est pas rien quand même de tout abandonner comme ça pour venir s'installer dans ce petit endroit de Méditerranée qu'est l'île du Levant. C'est beau, et c'est beau à vivre et à regarder, je trouve.
On se demandait avec Gilles l'enjeu éventuellement économique qui pouvait y avoir derrière les petites querelles qui ont animé l'île du Levant ces derniers mois. C'est vrai que, question naturisme, la concurrence est rude. Des camps nudistes ont ouvert partout, rien que dans le Var, je crois qu'on compte 9 plages nudistes.
Bah alors après, je sais pas, c'est complètement paradoxal. Donc on essaierait de nous faire croire que le naturisme ou le nudisme, peu importe, n'aurait aucun avenir, qu'il faudrait absolument tout changer tout de suite. Mais en même temps, toutes les études montrent que pour des tas de raisons, les gens sont de plus en plus heureux avec le naturisme. Moi, j'ai toujours connu les plages naturistes. J'allais, quand j'étais enfant, à la plage naturiste des Salindières. Il y a des plages ici à Toulon, à la Seyne-sur-Mer, au Lavandou. Il y a de très, très beaux endroits. Donc je pense que c'est un mensonge. C'est un mensonge que de laisser croire que le naturisme n'aurait pas d'avenir. Pour moi, c'est tout le contraire. Mais je ne suis pas commerçant, donc je n'ai aucun intérêt à défendre cette idée-là, si ce n'est à vivre en paix, comme le disait très justement Bertie tout à l'heure aussi. Et voilà. Et il faut simplement, venez, pour ceux qui ne connaissent pas l'île du Levant, si je peux vous donner un conseil, venez à l'élection de Miss Levant le premier samedi du mois d'août. Restez pour le bal après et vous verrez ce que c'est encore que faire la fête sur la place du village en dansant, pas nu, rassurez-vous, mais pieds nus, au milieu de cette nature incroyable. C'est un vrai rêve. Et moi, c'est ce rêve-là que j'ai envie de partager. Et je vous invite à venir, voilà.
Jean-Pierre Blanc, en fait, l'île du Levant est en train de devenir branchée, quasiment, et notamment, alors, sans doute l'impact de la Villa Noailles juste en face, mais les jeunes qui arrivent aujourd'hui au Levant ont peut-être un peu moins le côté Robinson des pionniers. Il y a une certaine gentrification ou pas de l'île du Levant ?
Non, non, non. Alors, en tous les cas, pas pour l'instant. J'espère qu'elle n'arrivera pas. Mais je crois que c'est incompatible. C'est pour ça que le naturisme est aussi salvateur, d'une certaine manière. Mais Bertil disait tout à l'heure, il n'y a pas de PDG ni d'éboueur. Il y a des nouveaux venus sur l'île du Levant, nous en parlions tout à l'heure. Il y a des nouveaux commerces qui ouvrent. Donc il y a des jeunes gens, le Gambaro par exemple, sur le port, qui est un endroit merveilleux. Il y a eu un hôtel, Héliotel, qui a été complètement repensé il y a quelques années. Donc il y a de nouvelles personnes qui ont envie de venir partager cette expérience, parce que c'est une expérience. Bah, si elle est plus branchée, tant mieux. On s'amusera mieux, on verra des nouvelles têtes. Mais moi, en même temps, depuis que j'y viens, j'ai toujours croisé des danseurs, des créateurs de mode, des photographes, des gens du théâtre, des gens des arts en général.
Et qui côtoient donc les ouvriers, les artisans, les commerçants et tout le monde en même costume. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Blanc d'avoir été avec nous ce soir. Vous devez nous quitter pour rejoindre la Design Parade qui a lieu tout l'été ici à Toulon, festival de design et d'architecture d'intérieur. France Culture est partenaire d'ailleurs. Merci beaucoup.
Merci à vous de cette belle invitation et vive le Levant naturiste.
Eh ben on y retourne.
On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. On ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu. Et pourtant, sans être impudique au fond, j'avoue franchement que c'est grisant. Nu au soleil,
Suzanne Seizer,
oui.
Vous êtes installée dans cette petite maison rose,
oui.
Rose pétant, nous oui. A-t-on dit oui. Quand on cherchait votre maison.
Oui, oui. On m'en veut pour ça. Enfin, on m'en veut façon de parler, mais ici c'était toujours le blanc qui dominait. Et le blanc, c'est tellement éblouissant. Et puis l'ancien syndic me disait un jour qu'on débarquait, ah, la jolie maison rose avec un... Alors j'ai dit oui. C'est pour ne pas devenir morose. Voilà. Et depuis, je n'entends plus de critiques. Voilà.
C'était il y a combien de temps, votre installation ici, dans votre maison rose ?
Il y a 39 ans.
Ce n'était pas la première fois, d'ailleurs, sur l'île du Levant. Vous achetez cette maison, mais vous y veniez déjà depuis longtemps.
Je venais depuis 10 ans avant. Et donc, je ne connaissais pas le naturisme, mais mon ami avec lequel nous avons acheté ensemble la maison, il connaissait le Levant depuis après la guerre. Hein. Et comme il avait vécu beaucoup à Paris, et que pour nous en Alsace, Paris c'est un peu toujours la ville où on se permet tout, vous voyez, je me disais, oh là là, le Levant ça doit être permissif aussi. Et j'ai fait un détour avec mon frère, un voyage en voiture, depuis chez nous, en Alsace, jusqu'au Cap Nord. Donc, au nord de la Norvège, traverser toute la Finlande. Et en Finlande, c'est les saunas. Vous êtes nus, hein, et plongeons dans le lac. Et j'ai découvert l'eau sur ma peau. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Levant. Et le contact a été immédiat. Par la couleur des rochers, c'était une couleur chaude, hein, et j'ai senti que là, je resterais. Un relax total. Un relax total.
Au Levant, vous n'avez pas découvert l'eau sur votre peau, c'était en Finlande, mais le soleil sur votre peau.
Et là, j'ai découvert le soleil sur ma peau. On ne peut pas l'expliquer, c'est une aventure physique, hein, qu'on fait personnellement comme ça. C'est intense, c'est profond, c'est physique et c'est intellectuel. Voilà.
Suzanne Seizer, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous vous êtes dénudée devant le regard des autres ?
On ne se dénude pas ici, vous y allez déjà nu. C'est devenu un peu plus chichiteux maintenant. Vous avez un pareo. C'était beaucoup plus libre, carrément libre. Alors on m'a dit une fois, toi qui as porté un des premiers bikinis, et c'est vrai, hein, à l'époque, tu ne vas pas nous dire que ça fait une telle différence. Eh bien si, ça fait une différence. Il y a tout un cheminement intérieur qu'il faut faire, hein, et je dois dire, on devient une femme à travers son corps, quand on le découvre et quand on l'accepte. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont pas bien dans leur peau parce qu'elles ne s'acceptent pas. Et si elles faisaient un peu de naturisme, elles jetteraient beaucoup de choses, de fausses pensées qu'elles ont sur les choses. Tout d'un coup, ça tombe. Et le fait que ça tombe, vous devenez la femme que vous êtes. Et c'est la liberté de la nudité qui fait que ça se fait. Oui, c'est ça.
Vous, Suzanne, vous dites qu'aujourd'hui, en 2016, on est un peu plus chichiteux, oui, sur l'île. D'autres disent au contraire que c'est un peu plus permissif qu'avant.
On croit, parce que vous voyez des films qui sont où on montre absolument des choses que moi je suis large d'esprit, mais ça me heurte. Ce n'est pas à montrer aussi dans un film. Alors les gens voient toutes ces choses-là et ils s'imaginent ici c'est absolument la tête à l'envers. Hein. Non, ici on a une certaine éthique. Nous, on est intensément lié à la nature, au soleil, à l'eau, aux plantes. On est écologiste. Avant la lettre, on était écologiste. Hein? On était simple. Mais ici, c'est pas devenu autre. Les gens sont les mêmes, sont toujours les mêmes.
Est-ce qu'on peut dire votre âge, Suzanne ?
Oui, je viens de fêter mes 90 ans au mois de janvier.
Mais aujourd'hui, quelle dame seriez-vous à 90 ans si vous n'aviez pas connu l'île du Levant ?
Je serais peut-être celle que je suis parce que j'ai un esprit. Je vis beaucoup avec ma tête et mes sentiments, mais mes sentiments n'auraient pas été aussi libres, aussi intenses sans l'île du Levant.
On a toujours vécu avec la nature, l'eau, les plantes. On était écologiste, on était simple. Qu'est-ce que les gens d'en face allaient donc imaginer, Frédéric Sirier, et notamment vous, quand vous étiez petit et que vous veniez de passer vos vacances ailleurs ?
Qu'est-ce que j'imaginais ? Déjà, j'apercevais quelque chose qu'il faut bien appeler une certaine forme de beauté, avec ces trois îles d'or qui sommeillaient et que je voyais se réveiller dans une demi-brume. Depuis les Salindières, qui est une périphérie populaire de la ville d'hier.
Où étaient vos parents ?
Oui, absolument, mon père et puis le grand-père et toute la famille, voilà, des pêcheurs, des gens qui travaillaient dans les maraîchers. Et il y avait ce petit mystère de cette île dont on me disait que les gens y étaient nus. Et en même temps, au bout de la plage des Salins, il y avait une plage qui était aussi naturiste. On appelait ça le fond des pins et il y avait une sorte de tabou qui pesait sur cet endroit, il fallait pas vraiment y aller parce que des gens de petite vertu y vivaient et s'y amusaient.
Donc il y avait vraiment tout un fantasme autour de cette île du Levant que vous avez choisi pour décor pour votre roman « Je suis capable de tout » paru il y a quelques semaines aux éditions Vertical. Alors dans ce roman, c'est une cadra, Julie, qui lit sur les plages du Levant le livre d'un coach « Mental Coaching, ma méthode, mes succès ». C'est un livre à lire au dixième degré. « Je suis capable de tout », dites-vous. Donc vous y êtes allé et vous avez rencontré le Levant.
J'y suis allé parce que j'avais besoin physiquement d'éprouver cette île. Déjà pour des questions d'honnêteté intellectuelle, je voulais voir à quoi ressemblait l'île. C'est un premier point. Et puis pour des choses plus personnelles, moi j'ai grandi à Paimpol, dans les Côtes d'Armor, qui est d'une certaine manière l'inverse symétrique en miroir de hier et de ces îles. En face de Paimpol, il y a l'île de Bréa. Donc j'ai pris le bateau à hier, à la période de Pâques. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde sur le bateau et pour être franc, j'étais un petit peu stressé. Je me suis dit, mais mes voisins de bateau, là, ils vont être nus près de moi. Et en fait, la petite histoire est la suivante, c'est que tout le monde est descendu à Port-Cros.
et je me suis retrouvé seul avec une vieille dame et son petit-fils. Nous sommes arrivés au Levant, elle a disparu, et j'étais pratiquement seul sur l'île, voilà.
Alors, vous ne nous direz peut-être pas si vous avez fait tomber, vous aussi, le Paréo sur l'île du Levant. Et vous parlez d'héliopolis. En ces termes, vous dites « asocialité de la joie, être affranchi du tourisme de masse, hyper-socialité de la joie, être ensemble naturellement ».
Alors, pour être franc, l'île, au moment où j'y suis allé, était quasi déserte. Maintenant, je le sens bien à ce que j'ai pu percevoir et aux discours que l'on m'a rapportés et que j'entends régulièrement. Le tourisme, en fait, sur le Levant est quand même fondamentalement différent de ce qu'on peut connaître sur les rives du continent, singulièrement au Lavandou ou dans d'autres endroits. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme effectivement un désir communautaire, mais qui est tout à fait légitime. Voilà, on ne va pas au Levant par hasard. Et en ce sens, je crois qu'il y a un esprit des lieux et qu'il faut le respecter.
Alors, tout se passe sur la plage des Sirènes, au Sun Beach Club, qui n'existe pas. En fait, le Levant n'a rien à voir avec le Cap d'Agde ou ces lieux naturistes hyper festifs où on est là pour faire la fête et pour être nu, accessoirement.
C'est extrêmement important de le souligner. Le Levant n'est absolument pas une île welbeckienne. Alors moi, j'ai pris l'île pour des raisons personnelles, hein, que j'ai expliquées, mais aussi parce qu'on dit souvent lire sur une île déserte. Donc mon livre est avant tout un livre sur la lecture qui prend ce cadre, ce décor, pour jouer avec l'image de la nudité, singulièrement avec l'image de la nudité des deux lectrices que je mets en scène.
Alors Julie, votre personnage, tombe dans des circonstances qu'on n'expliquera pas là, sans le vouloir, dans la zone militaire. Et alors surtout, elle se retrouve dans le cimetière de l'île du Levant, dont on n'a pas parlé encore dans cette émission, mais qui est un peu la part plus mélancolique de cette île.
Absolument, et elle est doublement mélancolique lorsque l'on connaît l'histoire de l'île, à savoir que entre 1860 et 1880, en gros, il y a eu un bagne pour enfants, une colonie pénitentiaire agricole sur l'île. Une centaine d'enfants sont morts. Et une stèle leur rend hommage dans le cimetière de l'île, que je n'ai pas pu visiter pour une raison très simple, c'est qu'il est sur la partie militaire. Voilà. Mais il m'importait beaucoup de désigner, de citer ce lieu pour donner une profondeur historique à l'île, au-delà de la plénitude immédiate que sa fréquentation peut procurer.
Frédéric Sirier, vous dites que l'île du Levant, aujourd'hui, c'est un peu la face inverse de la mondialisation. Ça veut dire quoi ?
Je dis ça. Eh bien, si je le dis, je crois spontanément, en fouillant un petit peu voilà, mon cerveau, c'est l'inverse de la violence du tourisme. Voilà, je crois que la mondialisation est une forme de violence. Voilà. Le tourisme en fait partie, parce que le tourisme est lié à la masse. C'est absolument pas un jugement de valeur, bien évidemment, mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus électif et qualitatif. Sur l'île du Levant, c'est quelque chose pour Happy Few, finalement, peut-être une Stendhal. Alors, qu'aurait pensé Stendhal de l'île du Levant, je n'en sais rien. Mais pour vous répondre spontanément, c'est ce que je dirais.
Bon, vous y êtes allé une fois sur cette île. Est-ce que vous y retournerez ?
Y retournerai. Je pense que j'y retournerai. Et encore une fois, je pense qu'il y a un esprit des lieux et qu'il faut le respecter.
En tout cas, nous, avec Yvon, on y retournera sans doute pour écouter Bertie, Frédéric, Suzanne et Gilles, que je remercie de nous avoir accueillis toutes voiles dehors. Merci aussi au personnel de la compagnie maritime Vedette Île d'Or qui nous ont conduits jusqu'au Levant alors que nous avions loupé le dernier bateau. Et puis un grand merci enfin aux responsables techniques de France Bleu Provence, Philippe David, et à la journaliste Sophie Glotin qui ont remué ciel et terre pour nous permettre de nous installer dans ce studio désaffecté et démonté de Toulon. Autre expérience extrême. Frédéric Sirier, donc votre livre est disponible en librairie. Ça s'appelle
Je suis capable de tout et c'est publié aux éditions Verticales.
Merci à vous. Notre petite entreprise s'arrête momentanément sur une aire de repos histoire de remettre un peu de carburant dans la machine. On reprend la route en septembre avec grand plaisir, le vaillant Yvon Croisier au volant et Sophie Bobert, notre indispensable copilote. Quant à moi, je vous retrouve tous les samedis du mois de juillet pour une émission de société. Ça s'appelle Une semaine en France et ce sera tous les samedis en direct de 12h40 à 14h. Très bel été à tous. Bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un monde.